Salut.
Bonjour. Et Jean-Philippe Assureau, Daniel Mourin.
Ah, Daniel.
Notre invité, Philippe Lièvre.
Philippe Lièvre.
On va parler avec lui de son spectacle Plus que givré, un délire au Théâtre des Enfants du Paradis, une prolongation d'ailleurs parce que ça a commencé en septembre, ça a été complet pendant 4 mois, archi blindé, et là il poursuit pendant les 3 mois qui viennent. Mais avant ça, et avant d'attaquer le blind test autour de Philippe Lièvre, je dis rien. Je voulais que l'on revienne sur le blind test d'hier, où il y a eu un Neil Diamond qui avait chanté
En attendant Bojangles.
Bojangles. Ouais. On avait échangé en disant mais Neil Diamond, il a fait plein d'autres succès, Sweet Caroline, il avait fait What a Beautiful Noise. Et j'ai un copain qui m'a envoyé un texto en me disant mais t'es fou, Neil Diamond, c'est quand même le mec qui a fait.
C'est lui.
Mais ouais. You'll be your woman. Énorme tube, quoi.
Colossal.
D'accord.
C'est dans la base du
jeu. Oui, sauf que c'était une version d'un groupe qui s'appelait Urge Overkill dans le Tarantino, mais auteur, compositeur et premier interprète, donc, Neil Diamond, c'est lui qui a créé Girl. Voilà, donc je voulais faire plaisir à mon pote, parce que c'est important d'avoir des potes quand on voit Laetitia Gaillet, on se dit, c'est super important d'avoir des gens autour de soi de valeur.
Je ne connais pas ce sentiment. Je voudrais bien, mais les gens refusent.
Ils ont peur, c'est sûr de ça.
Pourtant, je suis adorable.
Allons-y pour le blind test.
On va jouer quoi avec les noms de famille d'animaux?
Ah, on va là-dessus?
Je sais pas.
Les noms de famille d'animaux? Ah oui, d'accord.
Avec la neige.
Okay.
Eh bien, on commence.
Nadiel.
Morgane.
Coup de folie.
Oui.
Ok, c'est pas
fini, folie. Attention, attends, Morgane.
Mais qui en onomatopée? Je connais quel refrain.
Eh, t'es la pro des
haies. C'est vrai qu'elle est forte.
Les haies en folie. Mon nouveau spectacle.
Thierry Pastor, le coup de folie. Attention, c'est le break.
Okay,
d'accord, ça va, c'est pas grave. Ok, là.
Liliane.
Déjà.
Armanet, Juliette.
À la folie, je serre ton corps. Contre mes fins de temps, je compte les accords. Je sais qu'il m'en reste encore.
Oh là là. Pas mal. On a ça de l'imitation quand même.
Ah oui.
Ouais.
On a ça du procès aussi.
On a ça de beaucoup de choses.
C'est vrai.
En fait,
t'es... Parler, Morgane,
en fait, t'es à ça, quoi.
Ouais. C'est dommage, j'ai presque rien, mais c'est tout.
Puisqu'on avait beaucoup évoqué la folie hier avec Virginie et Fira, plus que givré, évidemment, le thème est autour de ça.
Leïla.
La nuit de folie.
Oui.
Ça.
C'est ta façon d'aimer.
Ouais, ça c'est... Voilà.
Et quelle
c'est
bizarre cette phrase.
Ouais.
Tu tapes, c'est ta façon d'aimer.
Tu tapes, c'est ta façon d'aimer.
En l'est.
Ah non, mais tape dans tes mains. Oui, bien, aussi. Leïla.
Oui.
Patrick Sébastien.
Allons-y.
Non, les Francky Vincent.
Oui.
Ah non, mais là, c'est de l'appropriation culturelle, Leïla. Je suis désolée.
Francky Vincent, je t'aime à la folie.
Bravo, chérie.
Francky Vincent, je t'aime à la folie.
Je t'aime envie de danser.
Francky Vincent, je t'aime à la folie.
Bravo, chérie.
Francky Vincent, je t'aime à la folie.
Je te remercie. Quand je me déhanche en bougeant sur scène.
On est d'accord, ça peut vraiment qu'on zouk dans l'émission.
C'est la première.
Ouais, écoutez. Peut-être la dernière.
Attends, Daniel. Non,
après,
L'exorciste.
Non. Super connu.
Ah. Michel Legrand.
Non.
Ah. Aussitôt.
Leïla. Sardou.
Non.
Serge Lama.
Ah non.
Oui.
Ah.
C'est déjà qui.
C'était à ça.
Ah. Moi, j'avais pas mis une dedans.
Titre.
Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie.
La vie.
La vie.
La vie.
Ah ouais. Chante ça.
Oh.
C'est plus Serge Lama.
Non, ça c'est plus Serge Lama.
C'est plus Francky Vincent.
C'est français.
FFF.
Non.
Français.
Ouais.
Non, mais bravo, Leïla. Bravo.
Vous avez dit français, mais on se au papier quand même.
Oui, Eric Zemmour, oui, je vous passe Leïla. Oui, il vous rejoint.
Morgane et Jupiter.
Non.
Kenji Girac.
Exactement.
Oh, je me surprends moi-même.
Français.
Ah ouais. Ok.
Ah si, ça tourne.
D'accord.
Ah, ça tourne.
Alors, on a 3 points pour Daniel, 3 pour Leïla, rien pour Fanny. C'est quand tu veux, Fanny. Hein.
Je fais ce que je peux, laisse-moi.
Bah oui, là, t'étais à ça trouvé tout à l'heure aussi. Et rien pour Morgane. Attention, c'est.
Alors, le Super Banco.
C'est le Super Banco. Je vous demande pas le titre, je vous demande l'interprète. C'est très important. Je veux pas le titre, je veux l'interprète. C'est une reprise.
C'est un vieux truc.
C'est une reprise de
Philippe Catherine.
Joli. Victoire de Morgane Cadeau Mouyadi sur la folie. Ça lui va tellement bien.
Oui.
Et merci d'accueillir Philippe Lelièvre.
Tout en terre, la bande originale.
Je le cherchais en fait.
Avec Nagui.
Pour tout de suite évacuer une sale vanne qui a été faite tout à l'heure à 11h sur le fait d'être à l'heure ou en retard avec le lièvre et la tortue.
Oh,
j'ai lu, Philippe, que vous aviez une tortue.
C'est vrai. Qui s'appelle Jean-Claude.
Comme l'un des acteurs de Plus que Givré.
Ouais.
Ça commence.
C'est fou.
C'est Jean-Christophe.
Ah pardon, c'est Jean-Christophe.
C'est JC.
Oui, c'est ça.
Il y a aussi Jésus-Christ. Mais en tout cas, Jean-Claude...
Julien Clerc aussi.
Oui, Julien Clerc. Et Jeanne Calment.
Et Jésus-Christ.
Et Jérémy Crédville.
Tu l'as déjà fait. Hein? Mais tu peux refaire les vannes un peu après.
Jérémy Crédville. En tout cas, elle est en hibernation. Elle est en hibernation.
Mais c'est fou, elle a quel âge cette tortue?
Elle a, que je dis pas de bêtises,
72.
Elle a 60, oui, elle 72. A 75 ans.
75 ans
ouais, elle s'appelait Graziella avant, c'est ça?
C'est ça, c'est vrai, mais comment il sait ça?
Je la connais.
C'est son ex.
Ouais. Non,
vous l'avez opérée pour qu'elle passe de Graziella?
Non, il n'y a eu aucune opération.
L'a mordu.
On s'est aperçu, vous savez, que la tortue femelle est concave.
Ouais. J'aime bien le vous savez, tout le monde.
Et convexe. C'est-à-dire que pour que la tortue puisse monter sur la tortue.
Pour voir s'emboîter.
Oui, s'emboîter.
D'accord.
Oui. En fait, elle monte dessus.
Oui.
Fait comme un petit chapeau.
C'est une façon de dire
ça. Non, c'est s'emboîter. Non, mais c'est ça.
Ils s'emboîtent.
Parce que si les deux sont bombés, il y a un problème d'équilibre.
De s'accoupler, quoi.
D'accord.
Si les gens arrivent au milieu de cette
conversation. C'est là qu'on va, c'était
bon. C'est là que. Oui, c'est ça. T'imagines. Morgane était en train d'imiter donc deux tortues mâles. Hein,
oui.
C'est ça.
Qui essayent de s'emboîter.
Ça marche pas.
Non,
ça marche pas.
Moi, je suis en déconstruction. Donc
c'est tragique.
Plus que Givré, ce spectacle, je l'ai dit, a connu un énorme succès pendant ses quatre derniers mois de l'année 2021, depuis septembre, complet. Vous poursuivez jusqu'au mois de mars, à partir de ce samedi, d'ailleurs.
Ouais,
à partir
j'ai fait une petite pause de 8 jours.
Du
pour
7 janvier.
Je m'occupe de Graziella.
Même pas de votre femme et de vos enfants.
Non, je m'occupe que de ma tortue.
C'est ça. Ce spectacle, vous l'aviez lancé il y a 18 ans?
Oui.
Ça s'appelait Givré.
Ça s'appelait Givré.
Ça s'appelle de la préparation, ça.
Oui, oui. Il y a 18 ans. Enfin, nous sommes en 22, presque. Non, en 22. Nous sommes en 22, non
c'est ça, en 22.
C'est un spectacle que j'ai créé, oui, en 2003, en Avignon. Oui, donc ça fera 19 ans en juillet.
Ça avait été un énorme succès. L'idée, justement, en Avignon, alors c'est peut-être ça qui était la naissance de cette moquerie sur les comédiens, sur le théâtre, peut-être...
Bon, ça vient même de plus loin.
National.
Ça vient de la troupe que j'avais quand j'avais 14-15 ans. Quand je faisais du théâtre amateur, qui s'appelait le théâtre du Maillon. D'ailleurs, on comprend tout de suite quand on entend le titre que c'était une troupe amateur. Mais j'ai tellement pris de plaisir et tellement de bonheur à cette époque. Et je suis très triste d'ailleurs parce qu'ils ont détruit cette salle. La mairie me prêtait une salle, c'était à Croissy-sur-Seine, et depuis, il ne reste plus que le mur du fond. Et quelquefois, je vais prier devant, je vais me recueillir. Oui, c'est triste de détruire une salle de spectacle.
Donc, il y avait cette troupe et vous avez quoi, grossi les traits de... Parce que, pour bien expliquer l'idée de cette pièce plus que Givré, ce sont des comédiens, une troupe qui s'appelle la troupe des Vagabonds...
Les Vagabonds de la Lune.
La Lune, qui monte un spectacle de Patakès.
Oui, qui s'appelle Patakès, oui.
Avec donc tous les personnages possibles et imaginables que l'on peut avoir dans une troupe. Le metteur en scène ils sont tous givrés, c'est pas la peine de préciser qui l'est ou qui ne l'est pas. L'acteur, celui qui se prend pour le beau gosse qui a eu de nombreuses conquêtes, celle qui a un pied démontable et qui va devoir le retrouver en haut d'un arbre après un drop.
L'accessoiriste aussi.
il y a des histoires d'amour, il y a la jeune première, enfin bref, tous les personnages que l'on peut imaginer dans une troupe, mais aussi dans le monde du théâtre. Et vous incarnez tous ces personnages personnage, mais d'une manière totalement dingue, et physiquement dingue, parce que non seulement ils sont une demi-douzaine, mais ils ont chacun différentes facettes. C'est-à-dire que c'est pas juste j'interprète l'un après l'autre, c'est qu'ils passent par tous les états.
Bah, il fallait qu'ils soient différenciés les uns des autres, puisque comme je passe en une seconde de l'un à l'autre, et qu'il n'y a pas nécessairement de monologue, mais que c'est vraiment un dialogue, et qu'ils peuvent se parler à quatre en même temps.
Ils se coupent la parole.
Ils se coupent la parole, il fallait qu'ils soient reconnaissables. Alors c'est vrai que pendant 2-3 minutes, les gens sont un peu surpris, mais très vite, enfin, d'après le spectateur, ils comprennent très vite à qui ils ont affaire.
Alors qu'il n'y a aucun accessoire, il y a juste un tabouret sur scène.
Ils sont censés répéter une pièce qui est censée être drôle, mais finalement qui n'est pas drôle du tout.
Et donc c'est ça qui est drôle. C'est une sorte de vaudeville, quoi.
Voilà. Oui, c'est un vaudeville. Quand un vaudeville qui s'appelle Patakès, on se doute bien de quoi il s'agit. Mais c'est avant tout un metteur en scène qui a envie d'exister à travers des acteurs un peu hétéroclites, on peut le dire, un peu approximatifs également.
Alors c'était une manière quoi tout à l'heure vous avez dit faire un clin d'œil à la première troupe que j'ai connue à Croissy.
Non, mais
c'était très émouvant, mais c'est aussi une manière de se moquer de ce qui se la raconte dans ce monde du théâtre.
Pas complètement. C'est pour aussi parler.
Moi, j'ai connu 2-3 metteurs en scène.
Oui, bien sûr. Mais c'est aussi parler. Mais je les aime vraiment tous. Il y en a pas un qui est là pour dénoncer quelque chose. J'aime vraiment tous ces personnages et ils sont là. C'est une ode au spectacle vivant en fait, au métier que j'aime.
Y compris le joueur de frisbee.
Oui. Bah oui, David, il existe fatalement. ils font tous partie de moi en fait.
Et on en sort comment physiquement? On est fatigué, on est crevé après.
Alors, l'idée, c'est que quand on m'a proposé de le reprendre, j'ai dit non. Vous êtes bien gentil, maintenant j'ai 74 ans, je vais plutôt aller faire...
Comme
il annonce son âge, comme Jean-Claude. Et puis j'ai voulu relever le défi, en fait j'ai pas dormi de la nuit quand on me l'a proposé.
C'est Jimmy Lévy qui vous a demandé.
J'ai été relire le texte et je me dis, allez, fais-le. Donc j'ai réécrit un peu le spectacle, c'est pour que ça s'appelle Plus que givré. C'est un peu plus court parce que je suis un peu plus vieux.
Ça n'enlève rien à la densité.
Non, rien du tout.
Mais il fallait que ça soit un givré nouvelle version. Garder le givré et l'upgrader, entre guillemets.
Bah elle est universelle, cette histoire. On pourra la...
Et intemporelle.
Il n'y a pas de name dropping, il n'y a pas... Enfin si, à un moment donné, je parle de Brad Pitt.
Et de France Gall.
Non.
Il y a un clin d'œil.
J'ai compris. Si, maman, si. Ouais, l'italien qui est au téléphone avec sa mère. Si, maman.
L'italien qui demande chaque fois. Comment c'est dit en français?
Comment c'est dit en français? France Inter. France Inter. Ah, ok, c'est dit pareil. Mais... J'adore cet italien.
Ça s'appelle Plus que givré, mise en scène par Arnaud Lemort, le pote de toujours, le pote de la radio, le
la
pote
radio,
d'énergie.
Oui. Ouais.
Avec qui, et de comédie, avec lequel vous avez justement aussi créé de nombreux personnages à la radio et à la télé.
On a beaucoup travaillé ensemble. Enfin, beaucoup écrit ensemble. Et tout à coup, quand l'idée est venue je lui ai dit, Arnaud, j'ai envie de monter, ça fait longtemps que j'ai envie de monter seul sur scène, et j'ai envie de le faire avec toi. Donc on a travaillé ensemble, j'ai improvisé devant lui, il y a eu des séances d'improvisation, des séances d'écriture, et puis après on s'est levé, et puis on a commencé à travailler. Et comme il a un rire tout à fait extraordinaire, et qu'il n'est pas tellement complaisant, Arnaud, quand j'improvisais devant lui et qu'il tombait du canapé, on gardait. Voilà.
C'est pas vraiment un seul en scène, parce que, pardon, je voudrais corriger, là, vous dites, j'ai envie de monter et d'être seul en scène. Oui, vous êtes seul sur scène. Sauf qu'on n'est pas dans le stand-up, on est dans le...
C'est une pièce de théâtre seule.
Voilà. Et on est plus proche de Philippe Cobert que de Gad Elmaleh.
Que Jean-Claude Truffier, oui.
On n'est pas dans le stand-up à l'américaine, on est plutôt dans le spectacle théâtral français.
Du tout. Performance aussi.
Ouais, c'est ça.
Oui, carrément.
Ça vous dérange la comparaison avec Philippe Cobert?
Aucunement. Non, mais je veux dire, moi j'ai découvert Cobert, j'avais 19-20 ans, j'ai vu ce qu'il faisait. Alors on va pas se mentir, c'est un maître, c'est le maître de ce genre de spectacle, même si ça avait déjà été inventé avant, mais il l'a mis au goût du jour. Et quand j'ai vu Cobert il y a donc 30 ans, je me suis dit c'est exactement ce que je veux faire, donc je ne peux pas le faire, parce que quand quelqu'un lance le poids plus loin de vous,
c'est clair.
Vous essayez de pas lancer le poids
au bout
de vos pieds.
On l'admire, mais
en cachette.
Et puis les années ont passé, et tout à coup... c'est de ma famille, on est plusieurs comme ça.
Non, mais c'est totalement réussi, il y a aucune question de légitimité à se poser.
Non, il y a pas de copie, il y a rien, c'est juste que c'est mon univers. Voilà.
Plus que givré au théâtre Les Enfants du Paradis, théâtre qui se trouve dans le 9e arrondissement rue Richer à Paris. Est-ce que l'envie de partir, j'imagine, en tournée, parce que c'est quand même le spectacle qui a un tabouret comme décor, donc c'est le plus facile à emmener en tournée mondiale.
Ah, là t'as le producteur.
Oui, je l'emmène avec moi, d'ailleurs il ne me quitte pas.
Ce tabouret
j'avais déjà fait une tournée et c'est un tabouret qui m'a été donné par un ami. Donc j'en prends soin. C'est un tabouret qui avait déjà une cinquantaine d'années.
Et vous donnez des âges à tout. Oui. Non, aux tortues, aux tabourets.
C'est important, ça veut dire qu'il y a une histoire.
Non, y a d'où tu sais l'âge d'un tabouret, toi?
Je connais l'âge de mes meubles.
Quoi. Je sais vivre, moi, monsieur.
En tout cas, ce tabouret a de l'importance. Et ce qui est amusant, c'est qu'il est toujours resté dans ma chambre.
Vous ne jouiez pas.
Non, oui, pendant ces 11 ans, puisque la dernière fois que j'ai joué, c'était à la Cigale. Il est resté pendant 11-12 ans dans la chambre, avec des livres dessus. Mmh. Et puis tout à coup, je l'ai regardé, parce que c'est vrai que j'aime les objets. Enfin, ils ont de l'importance pour moi. Et le jour où j'ai décidé de reprendre le spectacle, je l'ai regardé, je lui ai dit, on va y retourner, mon coco. Ouais. Parce qu'il n'a pas de prénom, en revanche. Hein.
Ah,
Coco. Il s'appelle Le Tabouret.
Il s'appelle Le Tabouret. Très bien. Il a répondu?
Oui. Ah, il m'a dit OK.
Merci Fanny. Comment... C'est tout pour moi.
Bonsoir Paris. Philippe Lelièvre avec nous jusqu'à midi et demi. On est ravis de vous accueillir, Philippe, et on admirait évidemment ce spectacle plus que givré. Nous, on est ravis. C'est pas le cas de tout le monde autour de cette table. Voici Morgane Cadignan. Et Morgane ne vous aime pas.
La crevure.
Ouais, elle a raison.
Par jalousie, Philippe Lelièvre, je vous aime pas parce que ciellement mardi, la grosse émission, j'ai envie de dire l'âge d'or de la télévision. C'était des émissions qui devaient être tellement chouettes à faire, j'imagine, et également chouettes à regarder. Ce qui n'existe absolument plus, des émissions cool à regarder à la télé. Presque plus. Presque. Oh, ouais. Plus, pardon. Non, mais nous, aujourd'hui, t'allumes le poste, c'est vrai, t'as le choix entre Nagui qui fait chanter des gens et qu'oblige les choristes et les musiciens à porter des déguisements de photobooths de mariage. Ah, arrêtez. Franchement, mais moi, je vous le dis, hein, franchement, ils ont une patience, mais à leur place, au premier chapeau vert pomme à paillettes, mais ça part en mutinerie contre vous, quoi. Donc c'est soit ça, soit un des disciples maléfiques de Yann Barthès qui va enquêter sur la route de la cocaïne. Rendez ça intéressant, faites peut-être un mix des émissions. Bienvenue dans N'oubliez pas la cocaïne. Présenté par Cyril Hanouna. On n'a pas le choix, il a un contrat d'exclusivité avec tout l'Est de la Colombie. Philippe, il y a d'autres points de votre biographie qu'on fait résonner quelque chose en moi très fort. Et je suis contente que ça soit Fanny aujourd'hui parce qu'elle va me comprendre vu la moyenne d'âge des autres autour de la table. Non, mais sans Leïla, c'est écrit. Sans Leïla, sinon ça fera un peu les pads originales. Et excusez-moi, les amis, je me suis trop reposée. Vous le savez, faut pas me donner de vacances. Enfin, Philippe, en 2003, vous jouez votre premier seul en scène, Givré, mise en scène par Arnaud Lemort. Et en 2005, Consécration. Vous êtes choisi pour être professeur de théâtre à la Star Academy. Vous avez intégré le château, bordel. Pour vous, c'est un point de biographie parmi des seuls en scène, des pièces, des séries. Mais pour moi, c'est un truc de pop culture indéniable. Pour les gens de mon âge, c'est pavlovien. Tu dis Starac, il y a toujours quelqu'un qui a la ref. Après, il faut vraiment être pile de la génération. Parce que j'ai déjà essayé de faire deviner Alexia Laroche-Joubert au Time's Up. Franchement, pour moi, c'était clair, mais on a passé une soirée un peu longue, quoi. Prof à la Starac, et quel bon prof vous avez été. Parce que franchement, il n'y a qu'à regarder la carrière de... le grand là qu'on a vu dans un unitaire sur thème. Bon bref, ça va me revenir. Non mais je suis méchante, mais c'est de la pure jalousie. Fanny et moi, la Starac, mais déjà on finissait toutes les deux en finale. Après on aurait partagé nos gains, on aurait racheté le château pour vivre dedans en autarcie. Ça aurait été génial, on pourrait se glisser dessus à l'infini comme deux tortues mâles dans des tonnes de mètres carrés. Et Philippe, c'est pas fini, en 2011 vous continuez avec Toujours Givré, mais surtout vous coécrivez les dialogues de la comédie musicale Dracula, l'amour plus fort que la mort. Vous avez de la chance que ma chronique elle dure que 3 minutes parce que franchement, l'amour plus fort que la mort quand on parlait de Fanny Ruet juste avant, mais j'arrive pas à choisir ma vanne tellement il y en a quoi. Philippe, revenons-en à vous parce que apparemment cette émission n'est toujours pas interdite sur mes projets de vie imaginaire. Voilà, d'ailleurs les gens râlent, hein, Nagui. Alors ce matin, on vous reçoit pour Plus que Givré aux Enfants du Paradis. Bon, Givré, Toujours Givré, Plus que Givré, qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Que ce spectacle il est très très bien ou vous avez un congélateur performant? Bon, je l'ai vu, donc première option. Donc je crois que qu'est-ce que soit le temps, faut y aller aux Enfants du Paradis voir ce spectacle avec des pneus neige et du second degré, mais vraiment faut y aller quand même.
Merci Morgane.
Et Morgane, les 7 et 8 janvier, c'est-à-dire ce week-end, on te retrouve à Bordeaux à la Nouvelle Comédie Gallienne.
Exactement.
Oui. Et je tiens à saluer, puisque tu parles de télévision, si Denis Bonnec et Olivier Mine, puisque vous faites partie des sociétaires également, de tout le monde a son mot à dire.
Sociétaires.
Oui, ouais. Je sais pas comment dire.
Là, on dit sociétaires, donc.
Des invités permanents ou.
Habitués. Sociétaires, c'est bien.
C'est plus une bande, en tout cas, de potes totalement barrés, givrés. Je pense à Sorène Prévost, Arnaud Gidoin ou Jérémy Crédville qui fait.
Que des JC, hein.
Également partie de cette bande. Est-ce que vous avez tenu justement, au-delà de toutes les versions de Givré, tout à l'heure vous avez dit en auto-dérision, il fallait que je réduise le spectacle parce que physiquement c'est une épreuve, c'est pas simple, et ainsi de suite. Mais vous avez tenu aussi à rajouter des choses qui n'étaient pas dans la première version.
Disons, on a
et pas que enlevé.
Non, il y a eu des petites actualisations. Je parle de Netflix, je parle parle de enfin des plateformes. Il y a une réplique qui au début, comme il joue un peu à plat, hein, donc le metteur en scène lui dit qu'il joue plateforme, voilà, qu'il joue comme s'il jouait sur Netflix. Et voilà, c'est un clin d'œil à ceux qui restent chez eux et qui ne viennent pas dans les salles obscures. Non, mais
d'autant que l'expression jouer à plat, pardon, se dit par dans le monde du théâtre.
Mais ça ne veut pas dire que sur Netflix on joue à plat nécessairement.
J'entends, mais qu'il y ait ce cadeau, ce jeu de mots, jouer à plat, c'est sans aucune intention, sans qu'on ait de
comme si vous diffusiez une italienne.
C'est ça.
Et d'ailleurs, vous remerciez le public de venir. Ça aussi, c'est parce qu'il y a le spectacle, il y a toute l'intention, toute l'énergie que vous mettez dedans, tout cette... Moi, j'ai passé un moment fou, quoi. C'est-à-dire que j'ai pleuré de rire, vraiment. J'ai été très, très émue, notamment par JC. On va sans doute pouvoir en reparler. Je crois que c'est mon personnage préféré, JC.
On peut même être gêné par des spectateurs qui rient trop fort et trop longtemps à une vanne à côté et qui viennent, entre guillemets, superposer la vanne suivante.
Mais vous remerciez le public. Vous remerciez le public chaleureusement. Du soutien surtout en ce moment.
C'est même émouvant, oui.
Ouais, c'est hyper touchant.
On vit une période quand même un peu compliquée, quoi. Et c'est vrai que les gens qui prennent le métro, qui viennent dans un théâtre, qui prennent le temps, qui font voir leur passe sanitaire, qui gardent un masque pendant 1h30, il faut avoir envie. Donc je pense que j'ai jamais pris la parole à la fin d'un spectacle en disant merci, enfin parlez-en, etc. Ça a jamais été vraiment mon truc.
Sur billet réduc.
mais là je les remercie simplement, voilà, d'être venus parce que, et je leur dis d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez besoin de nous, les artistes, mais nous les artistes, on a essentiellement besoin de vous pour remplir les.
Et moi, j'allais dire, ça dure une demi-heure quand même vos remerciements.
Oui, et le spectacle d'après fait la tronche.
Non, ce qui est, moi j'ai envie de dire, c'est presque l'inverse. C'est une forme d'exutoire, d'aller au spectacle, de retrouver le rire partagé, même avec un masque. Finalement, on l'oublie, ce masque.
Moi, il l'oublie assez rapidement.
Évidemment.
Oui.
Évidemment. Et puis, je pense que certains autour de cette table se sont déjà retrouvés seuls dans leur voiture ou dans un ascenseur, en gardant le masque, en se disant, mais ça devient une habitude, finalement.
C'est presque un plaisir, la suffocation. Et
moi, tu te rends compte de ton haleine, maintenant, Daniel. J'ai presque envie de dire qu'on a encore plus envie et besoin de spectacles dans lesquels on se lâche, on explose de rire sans penser à l'actualité, sans penser, puisque justement il est totalement intemporel, il fait appel à des histoires d'amour, il y a des conseils de drague qui sont à pleurer de rire, puisqu'il y a un personnage qui s'appelle Philippe, donc là-dedans.
C'était le plus dur, vous savez que c'était le plus dur finalement à faire dans toute cette histoire, c'était de revenir dans cette neutralité de mon personnage.
D'être vous un peu.
Oui, d'être moi. Et je n'aime pas tellement être moi, donc j'adore emprunter des personnages annexes.
Et donner des conseils de drague.
Oui, bien évidemment, puisque comme ça ne passe pas par moi.
Les conseils de drague essentiels, c'était s'intéresser à ce qu'elle dit, puis rapidement se désintéresser pour créer le manque.
Exactement. Ça. Mais lui, il le prend en premier degré.
C'est ça qui est génial. Non, mais on va pas le refaire là, mais non, c'est non. Le point de départ. Mais on a tellement entendu de potes à l'époque qui nous disaient, non, mais pour draguer, voilà, il faut faire ça, que appliquer, enfin le mec qui comprend mal le conseil et appliquer sur scène, c'est à pleurer.
Surtout
de rire.
Que le conseil est quand même donné au milieu de la nuit, donc pas nécessairement bien dit.
Milieu de la nuit où on découvre les nénuphars à fraises, extrêmement rares.
Un nénuphar porte-bonheur.
Porte-bonheur à la fraise. Ça s'appelle Plus que givré. C'est excellent. Au-delà d'une performance évidemment d'acteur de Philippe Lelièvre, il y a aussi des vannes qui sont faites sur le stagiaire, la série avec Michel Bernier.
Ah oui, parce que j'ai à un moment donné mon agent en ligne, et puisqu'on me propose une publicité pour le café, ça m'emballe pas plus que ça. Et je demande pourquoi ils ont pensé à moi, parce qu'ils m'ont dit, elle me dit parce qu'ils t'ont vu boire un café dans La Stagiaire. Voilà, c'est un petit clin d'œil à ceux qui regardent La Stagiaire sur France 3 avec Michel Bernier.
Et qui est avec vous et qui upgrade encore une fois le spectacle, c'est-à-dire que rajouter comme ça des références temporelles rend ce spectacle totalement actuel en gardant les fondamentaux de ce qu'il était il y a 19 ans, c'est
oui,
ça qui est bien.
Exactement. Ouais, je peux pas le dire mieux.
Voilà, moi non plus.
On peut rarement dire mieux après Nagui.
Plus que
Et puis s'amuse sur scène. C'est important de le dire. C'est important de dire, c'est que il prend un plaisir fou sur scène et ça se sent quand on est spectateur.
Surtout, c'est un comédien formidable.
C'est vrai. Tu peux rien dire non plus.
Ouais.
On a oublié aussi.
Sur le plaisir, oui, c'est vraiment.
Il n'y a pas que le tabouret, il y a la bouteille d'eau.
Il y a la bonbonne. Enfin,
il y a les poupées russes en bouteille d'eau.
Oui.
Ça aussi, ça c'est nouveau, ça aussi.
C'est nouveau, surtout qu'elles sont en verre.
Ah, écolo.
Écolo.
Voilà.
Mais j'explique que pour la bonbonne qui fait 35 litres, que j'ai cherché effectivement une bonbonne en verre. Et je me suis dit que ça coûtait quand même très 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 cher et que ça allait être beaucoup déplacé et que...
Là, Nagui produit plus. Hein.
Ouais. Philippe Lelièvre, c'est pas moi qui produis Philippe Lelièvre, j'aimerais, je serais fier. Plus que Givré, c'est au théâtre Les Enfants du Paradis. C'est sur les grands boulevards, comme on dit, dans le 9e à Paris et bientôt en tournée. Voici... Oui, pardon.
Oui, j'allais dire, vous connaissez la productrice.
Oui, puisque c'est votre femme.
Voilà.
C'est ça. Qui, notamment, avait été dans votre fameuse Starac, les gamins, puisque c'est, vous le dites, oui, vous le dites, vous la citez ou pas? Je sais pas, c'est un secret.
Dans quoi je cite, non, si je la cite dans le spectacle, d'ailleurs, je lui demande si elle dort à un moment donné.
Absolument.
Oui. Et elle dort.
C'était la productrice de la Starac. Donc, qui était pas à l'antenne, mais qui était celle qui produisait en antenne et que j'embrasse. Angélique Sansonetti.
Armand Altaï?
Non. Madame Sansonetti, grande productrice. Et voici, de Fanny Rué.
Ah, coucou les pipous.
Ah,
les vacances, ça fait plaisir. Mm-hmm. Oh là là, les fêtes et tout. Moi, pour Noël, ma copine m'a offert des pantoufles. Bah, j'ai passé 2 semaines dedans. Et les pantoufles étaient cool aussi. Nouvel an, pareil, grosse folie. Par contre, cette nuit-là, j'ai laissé une lampe allumée chez moi parce que j'avais peur que des cambrioleurs viennent à 23h en pensant que j'étais partie alors que c'est juste que je dormais. Genre, frère, je suis pas absente, je suis juste vieille en fait. Je ne fête pas, je récupère. Sinon, j'ai beaucoup regardé de films pendant les vacances et ça m'a fait réaliser que, vous savez ce qui manque à la France ? La gauche ! Non, une comédie française qui ravira toute la famille grâce à ses personnages habilement croqués et ses situations cocasses, fou rire garanti. Super ! Donc, j'ai pensé à un scénario et écoute bien Nagui parce que tu vas vouloir produire.
Allez.
Parce qu'il faut savoir que Nagui a décidé de devenir mon producteur et là, par exemple, on est en train d'organiser un événement pour récolter de l'argent pour Action contre la faim. C'est un concert de rap caritatif qui va s'appeler Sissi la famine. Bref, donc écoute
qu'est-ce
bien.
Que c'est que ce truc.
Donc écoute bien mon idée de comédie française, imaginez avec les gens qui me suivent sur Twitter et qui ont trop de temps libre. Donc Jonathan trouve un test antigénique positif dans la poubelle de sa salle de bain, mais pense qu'il s'agit d'un test de grossesse. Un peu idiot, mais plein de bonne volonté, il se prépare à devenir papa. Vous entendez ? Danny Boone qui vient de jouir ? Clairement, ce Jonathan, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Honnêtement, il est même pas dans le tiroir, il est genre dans le lave-vaisselle. Mais c'est un bon gars. C'est un bon gars, il prend ses responsabilités et décide, sans en parler à sa copine, d'aller suivre une formation prénatale pour accueillir correctement le bébé. Est-ce que, vu que j'étais pas sûre de comment s'appelaient les cours prénataux, j'ai googlé cours de bébé ? Peut-être. Et c'est lors d'un de ces fameux cours qu'il rencontre Paloma, jeune femme célibataire et, comme lui, assez peu portée sur tout ce qui est connexion neuronale. Honnêtement, elle pense que Mendeleïev, c'est un roi mage et que l'âge de pierre, c'est 34 ans. Et son histoire... Son histoire à elle, c'est qu'elle est enceinte de 9 mois, mais elle vient seulement de se rendre compte parce que ça fait 8 mois qu'elle pisse sur des tests Covid. Et elle voyait bien qu'elle avait un peu grossi, mais elle se dit, bah, c'est sûrement un nouveau variant, puisque qu'est-ce qu'un ventre de femme enceinte si ce n'est un gros ganglion. Donc elle comprend enfin que quand elle s'enfilait des fraises à la moutarde à 3h du mat, c'était pas juste une fringale. D'ailleurs, je voulais vendre le film à pâté, mais elle l'a mangé. Allez ! Et donc, elle arrive au cours prénatal, elle fait la connaissance de Jonathan, mais aussi d'autres personnages hauts en couleur. Une infirmière gentille, jouée par Chantal Lobby. Une infirmière méchante, jouée par Blanche Gardin. Un jeune stagiaire lunaire, joué par Philippe Catherine. On sait pas pourquoi, mais il doit être dedans, c'est la loi. Mais également d'autres parents, dont des personnes musulmanes, juives et asiatiques. Wow, carton français! Je vous spoil la fin. La copine de Jonathan, qui, rappelons-le, avait le Covid, meurt. Dommage. Paloma accouche et se met avec Jonathan pour qu'ils élèvent ensemble ce petit garçon qu'ils appellent José, comme le vin. Et voilà. Et voilà. Tout le monde est heureux ou mort à la fin. Nagui, t'es chaud de produire ?
Ah oui, là,
il faut que je réfléchisse.
Ok, bon, ben, sinon, on va lancer une cagnotte. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour participer.
Voilà,
et qu'on puisse
comme ça.
Tous ensemble produire Tu peux pas tester. Sinon, d'ici là, bonne année.
Merci.
Et Fanny, tu es en tournée dans toute la France en janvier. Tu seras à Mulhouse, à Nice, à Toulon, à Aix, à Montpellier et à Mâcon.
Absolument.
Il y a des références musicales dans le spectacle de Philippe Lelièvre, un spectacle qui s'appelle Plus que Givré, qui se joue aux Enfants du Paradis.
Si, maman, si tu voyais ma vie.
cette vanne, on va pas la refaire maintenant, la vanne sur six mamans si, mais ça ressemble à une impro.
C'est une impro.
C'est ça.
Oui.
C'est l'impro dans le spectacle au téléphone.
Il y a pas mal de répliques improvisées. Donc après j'expurge. S'il y a trop d'impro, j'enlève pour pas empiler, ouais, et saturer.
Est-ce qu'on risque de se perdre dans ses propres impro, finalement, de passer de l'une à l'autre et d'être encouragé par les rires du public, pris par même un fou rire soi-même?
Non, je suis très je me surveille de près. Non, il y a pas, c'est jamais de trop. Donc quand j'ajoute quelque chose, j'enlève quelque chose.
Là, ce qui compte dans Queen, c'est le tempo.
Oui.
C'est ça?
Poum, poum, tchac. C'est être un tambour. Il explique à un moment donné à Isabelle, cette jeune ingénue, qu'elle joue quelle grimace. Donc, il veut qu'elle joue comme un tambour, comme une peau de tambour bien huilée. Voilà, il lui explique à travers cette
ce
poum poum tchac de Queen.
C'est ça. Vous avez, on a évoqué tout à l'heure les cours de théâtre. On est vraiment aussi, dans une parodie de troupe de théâtre, dans une parodie ou dans des moqueries autour de metteurs en scène ou d'acteurs qui ont leurs défauts, qui courent le cachet, qui crachent sur la pub, mais qui sont bien contents quand on leur dit il y a une pub à faire pour une marque de café ou autre. Donc on y retrouve toutes les facettes qu'il peut y avoir dans le métier, mais c'est une manière de se moquer des profs aussi de théâtre, vous qui en avez été un justement.
J'aime bien me moquer, mais je ne fais
moquer
pas. C'est pas une volonté de ma part. Moi, c'est pas mon fond de commerce que de me moquer, mais j'aime bien l'évoquer en tout cas. Et puis je vois où ça me mène.
Non, parce que le risque, c'est que le public, le grand public, n'est pas la référence justement de ce qu'est un prof de théâtre. Donc ne pas avoir la référence de ce qui est parodié, c'est un peu délicat pour faire rire.
Bah c'est peut-être les faire avancer ou les faire évoluer. Ouais. Voilà. Enfin, j'ai pas non plus cette prétention là. Mais quand j'ai envie de parler de quelque chose, j'en parle. Après, ça suit. Si ça suit pas, c'est pas si grave que ça.
Et est-ce que vous êtes sujet au fou rire tout seul? Parce que moi, quand je vous voyais sur scène et je riais à gorge déployée, et on entend le public rire avec des rires parfois qui sont pas forcément faciles à maîtriser.
C'est la tonalité du rire qui est dangereuse.
Sur scène, et je me demandais à quel moment votre œil n'était pas en train de friser, qu'on n'était pas en train de vous perdre.
Le plus dur, c'est le rire esselé. Ouais. C'est-à-dire où c'est la respiration d'un gars alors que tout le monde se tait. Ça, deux, trois fois, oui, ça m'a surpris. Mais j'arrive à tenir parce que c'est un spectacle dans lequel il faut être vraiment concentré. Ouais. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé de sourire un rire.
Et ça passe d'un personnage à un autre à une vitesse incroyable. Là, vous parliez du Poum Poum Tchak de Queen. Et de la vanne faite dans votre spectacle, mais le rythme, le tempo est l'une des recettes de Plus que j'irais.
C'était mon envie de départ. C'est-à-dire quand j'ai parlé de ça à Arnaud, et ça a été mon œil extérieur aussi, en lui disant fais très attention quand je passe d'un personnage à l'autre, qu'il n'y ait pas sur le début de l'autre personnage la queue du précédent. Mmh. C'est-à-dire que quand je passe de Guylaine à Paul Félix, c'est-à-dire que de cette vieille dame à ce metteur en scène, il faut absolument pas qu'on entende dans les premières syllabes du metteur en scène une traîne du personnage précédent. Donc ça a été vraiment un vrai travail, et les gens me disent oh, mais vous ne bafouillez pas et on comprend où vous allez et vous passez d'un personnage à l'autre sans qu'on entende l'autre personnage. Je suis très heureux de ça parce que ça a été un vrai travail.
Ça fonctionne, et puis même avec un bout de tissu on arrive à savoir qui parle à qui dans le lit simplement par des mouvements, une chorégraphie, j'ai envie de dire, parce que c'est ça, hein, ça relève de la chorégraphie. Ce qui se passe sur scène, Philippe Lelièvre performe avec Plus que givré. Ça reprend après le succès des 4 premiers mois, ça reprend le 7 janvier. Allez-y.
Samedi, c'est le combien? C'est le 8?
C'est le 7.
C'est le 7? D'accord. Non, je sais pas.
C'est samedi?
Non, samedi.
C'est samedi?
Ah, samedi 8, alors, pardon.
Samedi 8, pardon. Voilà, d'accord.
Ok, j'ai vraiment
dit. Mais je passerai le 7 quand même.
Non, ouais. Non, c'est pas ça. On me donne un papier, il y a marqué samedi 7. Voilà, c'est tout. C'est pas grave, Denis, tu faisais partie de l'équipe. C'était un bon moment que nous avons passé ensemble. À bientôt, Denis, porte-toi bien, les dieux de la radio te suivront, ou pas. Pierre de la Veine, directeur du cours Cocher de la Veine, sera notre invité dans quelques instants, mais d'abord la musique dans les années 70, Philippe Lelièvre, écoutez.
Oh mon Dieu, putain.
Smoke on the Water, Deep Purple, qu'est-ce que vous avez comme image en entendant ça?
Alors, j'ai l'ampli de mon père.
Ampli guitare.
Ampli. Non, non, non. L'ampli Technics. Scott.
D'accord.
Qui s'était acheté ça et tout à coup on avait des, donc des grandes enceintes et je me mettais, je les tournais, j'attendais qu'ils ne soient pas là. J'ai une dizaine d'années. Hein. Je tournais les enceintes face au canapé. Je m'asseyais. Et je devenais dingue. Parce que j'écoutais pas ça, c'est-à-dire que c'était, ça devenait inaudible tellement je l'écoutais fort. Ça me rendait fou. Voilà. Mais j'ai aimé Deep Purple comme ma tortue, quoi.
C'est joli. Ça.
Phrase
Smoke on the Water.
Première fois
histoire vraie. D'un soir de concert en Suisse, je crois que c'est à Montreux, enfin où il y a un casino à Montreux ou pas?
Oui.
Oui,
j'ai joué. En face de la statue d'Eddie Murphy.
Et où il y a eux, ils étaient en train de jouer et il y a le feu dans le casino et donc ils chantent Smoke on the Water, c'est-à-dire vous voyez ces flammes s'élever au-dessus de la beauté du lac. Ça c'est pour l'anecdote.
Et quand on est gamin, il y en a qui veulent devenir, je sais pas, pompier, jardinier, vétérinaire, et il y en a d'autres comme vous qui veulent devenir clown. Mmh. C'est une, je crois, une sortie au cirque qui a été le.
C'était, j'allais beaucoup au théâtre avec ma grand-mère, avec mes parents aussi, mais j'allais au cirque également. Et le cirque, ça a éveillé en moi une.
Vous êtes un Parisien, pardon, c'est la région dans laquelle vous avez grandi, c'est Paris.
Oui, d'accord. Oui. Et tout à coup, je me suis dit, oh, j'ai envie. Qu'est-ce que je peux faire dans un cirque? Je vais pas être dompteur, j'ai peur des chats. je vais pas être lanceur de couteau, j'ai déjà tué deux personnes.
Dompteur de tortue.
Dompteur de tortue, mais je me suis dit, et clown. Et voilà. Et ce qui m'a plu au-delà d'être clown, c'est l'itinérance du cirque. Mmh. Et j'adore encore aujourd'hui partir en tournée. C'est ce que je préfère.
C'est la roulotte.
C'est partir, c'est changer de ville, rencontrer d'autres gens, leur faire découvrir le spectacle. Et donc, c'est ce qui m'a plu, au-delà d'avoir envie d'être clown, c'est d'avoir envie de cette itinérance, de passer d'une ville à l'autre, de monter le chapiteau.
Sans aucune lassitude pour.
Aucune. Mais non, mais je vais pas vous dire l'âge que j'ai.
L'hôtel Mercure ou l'Ibis qui vous accueille.
Je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. J'aime la tournée. J'aime ça.
Angélique va bien le prendre, écoutez. dans les années 90, vous écoutiez Sting. Alors là, c'est plus calme, on va dire. Tout aussi.
Un peu plus consensuel, peut-être, je sais pas, mais oui, j'ai découvert
Sting. Enfin,
j'aimais beaucoup Police et j'ai les suivis après. Dans sa carrière solo, j'adorais Police. Ouais, enfin, j'adorais ce qui faisait du bruit au début.
On est passé du punk rock à l'élégance aussi.
Oui. Bah on ira. Enfin j'ai écouté Gainsbourg aussi, j'ai écouté. J'ai aimé l'élégance de ce son. J'ai aimé le gars que je suivais déjà depuis longtemps. Et je suis assez quand j'écoute une musique, je ne m'en lasse pas. Si on parlait des tournées, donc je peux écouter The Englishman
en boucle
une journée entière.
Et le lendemain à nouveau, quel est le point commun pour vous entre le jeu d'un acteur et la musique?
C'est le rythme. Le rythme est extrêmement important quand on est acteur. Enfin, en tout cas, dans mes cours que j'ai dispensés, j'essayais d'expliquer aux jeunes comédiens que le rythme était hyper important. Hyper important pour la compréhension, d'abord pour le jeu avec l'autre. C'est pour ça que j'ai fait aussi ce petit passage sur, dans Plus que givré, sur ce poum poum tchak, où on doit être dans le rythme. Je n'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas les gens. Les gens qui n'ont pas le rythme ne m'emballent pas. ne m'emballent pas. C'est-à-dire quelqu'un qui danse un peu, alors ça peut me faire rire, mais j'ai envie qu'on soit dans le rythme de la vie.
Alors c'est vrai que rythme, justesse, écoute, oreille sont des termes qui vont aussi bien au jeu d'un acteur, d'une actrice qu'à la musique.
Bien sûr.
On est au début des années 90 et Philippe, vous commencez à former des acteurs à l'improvisation. On va parler d'une grande dame de théâtre, de Béatrice Brou.
Oui.
Notamment, qui a joué avec les plus grands, avec Brooke par exemple.
Oui, oui.
Et vous avez travaillé avec elle et vous avez transmis. Et c'est important pour vous de transmettre, on a parlé de la Starac tout à l'heure, mais il y a un véritable engagement dans le regard que vous portez sur de jeunes comédiens ou de moins jeunes.
En tout cas, la transmission a de l'importance pour moi parce que j'ai pas été un très bon élève. J'ai pas aimé tellement le sachant. C'est-à-dire que celui qui monte sur une estrade et qui tout à coup sait tout, m'a toujours un peu dérangé, parce qu'il n'était pas à ma portée. Et en fait, je me suis dit qu'un jour, j'aurais envie d'enseigner, et d'enseigner sans estrade. C'est-à-dire à la même hauteur que tout le monde. Ouais. C'est-à-dire d'être disponible et enseigner comme j'ai envie de le faire. C'est-à-dire qu'en étant parfois un peu dur, mais très très à l'écoute, pas nécessairement dans la compassion, mais dans l'accompagnement. Et donc, j'ai enseigné chaque année. Après, je voulais arrêter et les élèves me disaient « Non, 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 je suis encore là l'année prochaine, n'arrête pas, arrête que l'année prochaine. » Et fatalement,
on continue.
Et vraiment,
ça me rappelle quelque chose.
J'ai aimé profondément, et j'aime encore, je fais quelques stages d'improvisation, j'ai aimé transmettre. J'aime ça. Parce que je ne me positionne pas, je leur dis le premier jour, moi je ne suis pas votre prof, je viens juste pour partager un moment avec vous. Ni pour faire la police, ni pour...
Comment on peut apprendre l'improvisation? Parce que l'improvisation, non, c'est... Oui, voilà, ça s'apprend pas. C'est le jeu, c'est un mélange d'écriture et d'interprétation à instant T.
Apprendre l'improvisation, c'est déjà, ça serait, ce que je dis à mes élèves, c'est déjà de ne pas dire non. Si on se parle, on s'écoute, si vous me dites oui, vous allez ouvrir la conversation. Si je vous dis, vous êtes, c'est bizarre, c'est un pull rouge. Non, c'est pas un pull rouge. Alors que vous avez un pull rouge.
C'est fini, j'ai fermé la porte.
Oui, alors on peut rebondir, mais c'est quand même mieux quand on improvise. On improvise toute la journée. C'est pas très théâtral, mais on improvise, on s'écoute. Souvent, on dit.
Vous rajoutez une dose de folie dans vos improvisations.
C'est parce que j'aime l'absurde. Voilà. Oui. Moi, je parle aux gants. J'habite dans un escalator et je mange des tables. Bah, évidemment.
J'aime bien le évidemment.
Oui.
Mais ça aide aussi de partir dans l'absurde pour l'improvisation, non? Pas forcément?
Pas nécessairement, puisqu'on sait que l'absurde, il faut s'appuyer sur quelque chose de très concret. Ouais. C'est-à-dire partir tout de suite et inventer des choses et dire qu'il y a des moufles qui volent. Ouais.
L'absurde drôle, c'est plus difficile.
Oui, mais il faut d'abord être bien sur ses pattes, bien sur terre. Et après, quand on a les gens avec nous, tout à coup, on les emmène avec nous dans l'absurde. Mais ils ont compris d'où on partait.
Et alors, pour reprendre ce que disait Daniel, est-ce qu'il y a des ficelles dans l'improvisation? Est-ce qu'il y a
ça s'appelle une improvisation. Ça s'appelle des tomates en improvisation.
D'accord.
Mais moi, je suis contre la tomate.
D'accord.
C'était tout à coup une recette.
C'est une
recette, c'est-à-dire que ou se dire des choses auparavant. Le plus important dans l'improvisation, c'est d'avoir peur et d'être libre. Si tout à coup on s'est dit ouais, tu dis ça au début, tu dis ça, ce n'est plus une improvisation.
Mais on n'essaye pas d'emmener quelqu'un justement sur un thème après qu'on va savoir dérouler.
Non. Oui, mais un thème, c'est pas une tomate.
C'est-à-dire
qu'on dit
j'entends.
Visite du
mais
château.
Moi aussi, je suis contre la tomate. Hein,
voilà.
Mais non, arrêtez. Pour la courgette, la tomate. Pour l'aubergine.
On dit visite du château.
Visite du château, ça veut dire que tout à coup, si à partir du moment où vous savez qui vous êtes, c'est-à-dire est-ce que je suis un visiteur, est-ce que je suis Louis XIV dans cette visite du château, ou est-ce que je suis le gardien? Je ne vais pas agir de la même manière. Le plus important dans une improvisation, à mon sens, c'est qui vous êtes face à cette improvisation. Voilà.
Plus que le partenaire, c'est-à-dire le sparring par celui qui va renvoyer la balle.
Pas plus important.
D'accord.
Et ce qui est important, c'est l'improvisation. C'est pas vous de vous mettre en avant. Tout à coup, vous allez voir que vous êtes en dessous de l'autre. Ouais. Vous vous mettez au service de l'improvisation. Mm-hmm. Mais il n'y a pas besoin de d'en parler avant. C'est juste après juste une culture, d'avoir une culture générale, et puis de se lancer, de ne pas avoir peur, et surtout d'écouter.
Alors,
d'écouter ce qui se passe autour de vous.
École justement de l'improvisation, la radio en 96. Et là, vous écoutiez.
Ouais, je vous dirai pourquoi.
Bah, c'est quoi, c'est un enterrement? C'est le Requiem de Mozart.
Oui, Requiem de Mozart, alors pareil, je me le mettais en boucle.
Ça, c'est les journées de beau temps?
Non, c'est à l'époque, j'étais animateur sur Énergie, et je n'écoutais pas nécessairement...
Ah, je croyais que c'était Europe 2, moi.
Oui, ça a commencé par Europe 2, puis sur Énergie.
D'accord.
Et j'écoutais pas nécessairement les musiques qui m'enchantaient. Et je me suis...
Sur ces radios, vous voulez
sur
dire?
Sur ces radios.
D'accord.
C'est pas mauvais, mais c'était au bout d'un moment, c'était une espèce de bouillie, et j'avais besoin de me ressourcer, comme me mettre, je sais pas, allongé.
Une cure de détox, c'est ça.
Une cure de détox. Et j'ai écouté beaucoup de classiques, dont le Requiem de Mozart, qui m'a beaucoup touché parce que, plus jeune, j'ai appris la mort du père d'un de mes amis, très proche, et on écoutait le Requiem de Mozart. Ça ne s'est pas fait, ça s'est fait comme ça. Voilà. Et j'ai toujours une pensée pour lui, et je partais ailleurs en écoutant ce Requiem qui est, mais sublime. C'est sublime.
Et dans ces années-là, on a parlé d'Europe 2, on a parlé d'Énergie aussi, aux côtés de Bruno Guillon, d'Arnaud Lemort encore,
c'est
Jonathan
Lambert. C'est le prime time de la radio, c'est le 6-9.
Hein. Le 6-9, Manu Payet, Henri Delorme.
Avec donc, Bruno Guillon, que vous retrouvez d'ailleurs aussi dans Tout le monde à son mot à dire.
Donc il faut se lever tôt, il faut être en forme, il faut être bon camarade, il faut quelle qualité pour cette matinale d'énergie.
Cocher les cases correspondantes.
Ça fait beaucoup de choses,
Au début, c'est formidable. Ça a toujours été formidable. Commençant à 6h, donc au début, je me levais à 4h moins le quart, très excité. Et puis, les années ont passé, plus ça devenait militaire. C'est-à-dire que je mettais chaussettes, slip, pantalon. Je savais que la douche durait 3 minutes et qu'il fallait que j'aille à la radio. Mais ce qui m'a enchanté quand je partais à la radio, c'est que moi, je suis motard. Donc, je partais tôt.
Il n'y a personne.
Et il n'y a personne. Il y a juste des gens que l'on croise, toujours au même endroit.
C'est génial, ça.
Et parfois, il y a des gens que je ne voyais pas et j'étais inquiet pour eux. Je ne les connaissais pas. Le type n'était pas au milieu du pont au moment où je passais sur le pont de Suresnes. Il me disait, ben où il est? J'espère qu'il n'est pas mort. Et j'ai eu des pensées pour ces gens que je croisais le matin, que je n'ai jamais rencontré.
Vous inventez des vies comme ça aux gens que vous croisez dans les transports en commun, dans les trains en tournée.
Mais j'ai passé ma vie à ça, moi. À partir de 16 ans, je m'inventais, c'était des thèmes. Donc aujourd'hui, j'allais être anglais. Donc je parlais comme une vache, mais je parlais un peu comme bonjour madame.
Toute la journée. En toute situation.
De toute façon, je suis un staccanoviste des choses. C'est-à-dire que quand je commence à bosser, c'est intarissable. Je peux bosser 48 heures non-stop.
Mais à vivre à la maison, ça doit être infernal.
Ça, vous demandez à vos personnes concernées.
On va continuer de parler du théâtre et des cours de théâtre avec Pierre Delavenne. Bonjour. Merci Pierre de venir à ce micro, directeur des cours qui portent votre nom, cours Cochet de la Veine, créé par Jean-Laurent Cochet. Donner un cours de théâtre, c'est une chose. Est-ce que tout le monde est capable de le comprendre, de le percevoir, de le digérer? Est-ce qu'on fait des castings avant de sélectionner des élèves, ouais, des entretiens?
Oui, dans beaucoup d'écoles, il y a effectivement des sélections pour entendre d'abord les élèves qui veulent s'inscrire au cours. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont ce rêve de devenir comédien, mais qui savent pas forcément qu'il y a beaucoup de travail aussi, qu'il faut apprendre déjà. Il y en a qui arrivent des fois, ils ont pas appris de texte, ah bon, faut apprendre un texte. Bah ouais, c'est pas mal d'apprendre un texte. Donc il y a des sélections. Nous, on demande aux élèves de participer à un stage de 5 jours, comme ça, eux. D'ailleurs, j'aime bien que ça soit à double sens. Eux, ils peuvent voir aussi comment nous on fonctionne, parce que notre pédagogie peut très bien ne pas leur correspondre. Et puis nous, on voit si notre pédagogie fonctionne avec eux et s'ils ont vraiment la motivation pour s'engager dans ce métier de galère.
Est-ce que c'est... Oui, de galère, parce que c'est un métier de désir, d'attente, aussi sur des projets. C'est un métier à risque, parce qu'on on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Mais est-ce qu'il y a, malgré toutes ces accidents potentiels et la situation sanitaire, est-ce qu'il y a de plus en plus quand même d'élèves qui viennent au cours, ou au contraire, ça se raréfie?
Non, là, l'ambiance générale, c'est plutôt, il y en a un peu moins là, dans les écoles de théâtre, parce que la crise est là. Les élèves rêvent toujours d'être comédiens, leurs parents beaucoup moins. Ils disent mais là tu t'embarques quand même dans quelque chose. Faut bien le dire, hein, depuis deux ans les théâtres sont à mal, et puis encore plus aujourd'hui. Je sais pas si vous je pense que si vous le savez, mais aujourd'hui quand
on fait tout pour les aider d'ailleurs.
Ouais, c'est ça, on fait tout, mais alors aujourd'hui quand un comédien a le Covid par exemple, c'est toute la troupe qui va s'arrêter de jouer pendant 5 jours, alors que dans une entreprise quand quelqu'un a le Covid, l'entreprise elle continue de fonctionner. Là en ce moment, il y a plein de pièces à Paris qui sont annulées, suspendues comme ça, juste pour le soir. Les spectateurs sont malheureux parce que c'est annulé, mais les comédiens sont aussi malheureux de ne plus jouer. Donc ouais, ça a beaucoup changé. Là.
Au-delà de la situation sanitaire, la notion de galère, de ne pas savoir de quoi est fait le lendemain, pèse toujours est toujours présente dans l'esprit des parents par rapport aux enfants, où on parlait tout à l'heure des plateformes, l'explosion des séries, des plateformes, des demandes, et cette volonté de certaines personnes d'être acteur, mais pour être connu plus que pour être acteur. Il y a le côté aussi, je cherche la notoriété, je veux être immédiatement connu et reconnu. Dans la balance, comment ça pèse? Parce qu'il y a aussi, à l'inverse, des acteurs qui sont, peut-être pas en France, mais aux États-Unis, multimillionnaires, et qui sont des stars affichées dans le monde entier.
Bien sûr. Maintenant, des stars en France, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas non plus énormément. Je pense, si on fait une comparaison avec le football, où il y a 2 millions de licenciés au foot, il y a combien de stars? Il y en a une dizaine, une vingtaine, on va dire. Et puis, il y a 1000 joueurs de foot professionnels qui en vivent. Le théâtre et le cinéma, c'est peu pareil. Je crois qu'il y a 200, 300 000 intermittents. Il y a vraiment, quelques milliers de personnes qui en vivent. Et puis, des stars, il y en a, ça se compte juste par dizaines, on va dire.
Mais
c'est elles qui font rêver et qui peut-être attirent des jeunes actrices.
Exactement, jeunes acteurs, mais ouais. Je pense que ceux qui viennent au cours rêvent pour beaucoup effectivement d'être en haut dans la lumière, mais beaucoup aussi rêvent tout simplement de jouer. Mmh. Parce que il y a beaucoup d'acteurs, de comédiens, de comédiennes à Paris qui jouent dans des théâtres qui sont extrêmement heureux, qui peut-être n'accéderont pas à la popularité, mais c'est pas grave, ils sont quand même très heureux. Il y a beaucoup de personnes qui jouent des seconds rôles dans des films et qui en vivent de ce métier, qui sont extrêmement heureux. Je pense qu'à partir du moment où on s'aigrit parce qu'on veut être une star, on n'en est pas une, là ça va être compliqué.
Vous parliez de football et de comédiens, je pense à Lucas Bravo qui est le fils d'un joueur de foot qui s'appelle Daniel Bravo.
Ouais.
Et Lucas Bravo est un jeune acteur français qui est en train de faire une carrière internationale incroyable. Il est en train de tourner avec Julia Roberts. Il joue d'ailleurs le fiancé, l'amant de Julia Roberts dans un film en ce moment. Donc je vous raconte, ce sont des rêves qui sont possibles en tout cas pour de jeunes acteurs français de percer à l'étranger et pas uniquement d'être confinés à Paris.
Exactement. De toute façon, je pense que tout est possible. Tout est possible. On peut monter très vite, très haut. Mmh. On peut aussi redescendre très vite en bas. C'est ça qui est difficile.
Tout est possible. Alors, tout est possible.
Ah, mais c'est celui qui joue dans Emily in Paris. C'est ça. Le chef cuistot.
Exactement. Pardon. Le beau gosse.
Voilà.
Ouais, Lucas Bravo.
Je vais aller vérifier.
Mais bon acteur. au-delà d'être beau, tout simplement. Dans le spectacle de Philippe Lièvre, il évoque les plateformes, les publicités. Est-ce que les pubs sont aussi un passage obligé?
C'est pas un passage obligé, mais je pense que ça se refuse pas. À moins que vraiment la pub soit dégradante. Mais les comédiens et les comédiennes sont contents de pouvoir jouer dans une pub, parce que déjà ça fait un cachet. Et puis ça ramène un peu d'argent.
Et ça fait des heures aussi pour
l'intermittence. Et ça fait des heures, hein, parce que vous connaissez le système. Il faut avoir ces 500 heures, là. Donc effectivement, les comédiens sont contents de jouer dans
les pubs. Et les séries aussi. C'est décrocher un rôle dans une série, c'est presque, j'allais dire un CDI, j'exagère, mais en tout cas, ça peut être sur du long terme.
Ouais, c'est un bon CDD.
Voilà.
C'est plutôt ça. On est content. Mais je pense que pour ça aujourd'hui, moi, j'aggraverai pas la situation parce que vous avez vu pendant le confinement, les personnes se sont ruées sur les séries. Hein, et finalement, pour faire des séries, on a besoin de comédiens et de comédiennes. Donc les gens sont moins allés au théâtre, mais vont consommer beaucoup de produits culturels. Donc c'est un peu les vases communicants.
Est-ce que dans votre cours, vous donnez des conseils de carrière en plus de donner des conseils d'acteur?
Ouais, on conseille. Mais bon, très souvent, le comédien qui arrive, enfin l'élève qui arrive, il dit comment je fais pour avoir un agent? C'est sa première question. Non, mais attends, avant d'avoir un agent, l'agent c'est très bien, mais l'agent ça vient souvent beaucoup plus tard quand t'as commencé une carrière.
C'est pas lui qui apporte les rôles. Ouais.
Exactement.
C'est sûr. Le cours s'appelle Cocher de la veine. Vous recrutez à partir de quelle? C'est quelle période de l'année pour s'inscrire?
C'est surtout au mois de septembre, mais après on fait des stages tous les deux mois à chaque vacances en fait pour recruter des élèves.
Cours donc Cocher de la veine. Merci Pierre d'être venu à ce micro, le héros du jour. Maintenant avec Daniel Moir.
Oui. Alors, mon héros du jour aurait pu être, chers amis, un panda chinois. Oui, un panda chinois surpris par les caméras de surveillance du zoo qui lui sert de résidence. Oui, de voir ce panda escalader et gris, ça m'a réconcilié avec l'animal. D'habitude, je trouve que les pandas ne servent à rien. Je trouve que ça a l'air con, même, un panda. On en fait des tonnes quand il y a un bébé panda qui voit le jour, c'est filmé, on leur donne des parrains prestigieux. Kylian Mbappé est parrain de Yundundu, né en août au zoo de Beauval et dont le baptême avait lieu il y a 5 jours. Mais il a pas autre chose à foutre, Mbappé, que d'aller scailler le cul à Beauval pour faire risette avec un nounours noir et blanc dont la seule activité, soyons francs, hein, est de sucer frénétiquement des morceaux de bambou. Perso, si l'espèce disparaît, ça me fera chaud. J'en ai rien à foutre de cette bestiole. Eh ben, depuis que j'ai vu les images de celui qui fuguait en Chine, le mammifère bicolore est remonté dans mon estime. De là en faire mon héros du jour, c'est vrai qu'il faut pas déconner non plus. Non, mon héros du jour est une héroïne, une avocate française qui, on peut le dire, a le sens du bien-être de clients. Enfin, surtout d'un. Figurez-vous que mon avocate a été surprise avant-hier dans un parloir de la prison de la santé en train de s'envoyer en l'air avec son client.
Oh.
Alors,
on a même le son.
Merci Morgane pour le son. Alors, je ne savais pas, mais on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit, je ne comprends pas pourquoi. Nous, on a bien le droit de le faire sur le lieu de travail, alors pourquoi pas en prison? Et apparemment, ce qui gêne les autorités pénitentiaires, c'est surtout que nos deux crapahuteurs se tenaient debout contre une sorte de baie vitrée. Du coup, c'était un petit peu voyant. Mais justement, c'est ça qui est génial. Non seulement cette femme fait preuve d'une incroyable générosité avec son client, mais en plus, elle propose un spectacle inédit à tout le personnel de la prison. Quel sens du partage et de la convivialité. Eh ben, vous savez quoi? On devrait faire pareil, nous. La prochaine fois que nous ferons l'amour au bureau, laissons la porte ouverte. Laissons les portes ouvertes. Et pourquoi ne pas aller plus loin? Oui, aller plus loin, en planifiant nos séances de galipettes à heure précise, dans une salle de réunion, pour revenir applaudir nos amis collègues. Le lien, le partage, le vivre ensemble sont des valeurs qui s'estompent dans l'entreprise. C'est tellement dommage. Et bien par son action fraterno-copulatrice, cet avocat nous montre la voie. Et c'est pourquoi j'en appelle.
Non.
Et ce, de façon solennelle.
Pas lui.
à Emmanuel Macron. Monsieur le Président, au lieu d'emmerder les non-vaccinés, pourquoi ne pas emmerder les puritains et les pudibons? Pour ce faire, je vous en conjure, prenez comme conseillère à l'expression corporelle et au lâcher-prise cette avocate qui récemment a fait le bonheur de son client ainsi que de l'ensemble du personnel de toute la prison de la santé. Cette femme a comme projet de rendre les gens heureux en désacralisant l'acte d'amour. Alors je sais que le sexe et les gestes barrières ne sont pas souvent compatibles, mais une fois le virus maîtrisé, et pour que le pays retrouve le sens et l'envie du vivre ensemble, relancez l'exhibitionnisme. Vive le voyeurisme, Nagui, vive la France.
Merci, Daniel. De quoi parles-tu aujourd'hui, Tanguy?
Je veux parler d'Emmanuel Macron, qui a donc envie d'emmerder 10% c'est des gens en France. Ça fait quand même 90% de gens qu'il a envie d'aimer, en fait. C'est énorme. Enfin, c'est Woodstock en 2022, le mec.
Fabien Ruet, Morgane Cadignan, Tanguy Bassureau, Daniel Morin et notre invité, Monsieur Philippe Lelièvre. Avec plus que Givré, mise en scène par Arnaud Lemor, avec ce succès qui a été remporté pendant les 4 derniers mois aux Enfants du Paradis. Vous poursuivez encore pendant 3 mois, puis à partir du samedi 8, car oui. C'est une information très importante, ce samedi tombe un 8 janvier, puis sans doute au printemps ou
à la rentrée.
Ça vous amuserait de retourner à Avignon?
J'ai d'autres projets là en juillet, mais la tournée, il y aura une tournée de septembre 2022 à décembre 2022.
Est-ce qu'il continue d'évoluer ce spectacle au-delà des différents volumes 1, 2, 3 qui ont déjà existé? Est-ce que la vie, l'actualité, on parlait tout à l'heure de la pandémie ou de la politique, est-ce que ça vous donne envie d'y mettre comme ça ou d'essayer une vanne de temps en temps un soir puis de la retirer si vous vous dites je la sens pas, de la remettre quand même?
C'est jamais une volonté, mais c'est du spectacle vivant, donc ça bouge et parfois, oui, j'essaye des choses.
Vous ventiez en tout cas l'improvisation, donc c'est vrai que autant de personnages se prêtent à l'impro, non?
Et à la fois c'est un spectacle qui a été travaillé sur l'improvisation, c'est-à-dire qu'il y a encore des morceaux d'improvisation entiers, et c'est d'ailleurs très douloureux pour un improvisateur que d'être obligé
de répéter,
de fixer c'est une ça. Improvisation, parce que tout à coup on trouve ça mauvais, pas intéressant, on n'a plus envie de le faire. C'est un vrai travail assez intéressant pour les acteurs.
Il y a une demi-douzaine de personnages dans le
il y en a 8 je crois, 8, mais à un moment donné il y en a pendant la pub, il demande si tout le monde est prêt, donc il y en a 6 d'un coup en 4 secondes. Mais...
Est-ce que il y a un peu de vous dans chacun de ces personnages?
Évidemment. Je les aime tous pour différentes raisons. J'aime Jean-Christophe parce que finalement
c'est un boulet quand même.
Non, mais il est super Jean-Christophe.
Mais il est tellement tendre.
D'ailleurs, mais tu dis il est super. T'as pitié quand tu dis il est super.
Non, c'est mon personnage préféré. Bah,
c'est surtout lui qui remporte la timbale quand même, sans vouloir tout dévoiler. Non, il est tendre, il est touchant, je pense que les gens se reconnaissent à travers lui, quoi. Et puis il y a son pendant, il y a David qui est une espèce de gars qui peut paraître insupportable pour certains, et il y en a d'autres qui me disent oh, j'adore David. Parce
David
que...
c'est le beau gosse, hein, c'est ça qui
oui c'est enfin c'est je sais pas, on sait pas s'il est beau gosse, je ne cite jamais ça, enfin, je parle pas de son physique, je parle surtout de son travail, de son antériorité, son travail sur l'acteur studio. Oui, un petit peu, parce qu'il pense qu'il est au-dessus des autres.
C'est un grand joueur de frisbee, évidemment, et on découvre un vrai problème de société qui est rarement évoqué dans les infos, dans les médias, dans les magazines. C'est comment un joueur de frisbee peut s'en débarrasser, parce que dès l'instant où il le donne à quelqu'un, on le lui renvoie immédiatement derrière.
Sauf que là, à un moment donné, il s'en débarrasse un bout de temps.
Ça m'a fait pleurer de rire le côté arrête de me l'envoyer. Je te l'ai donné. Philippe Lelièvre s'appelle Plus que Givré. Il faut tout laisser au vestiaire quand on arrive dans la salle de théâtre, se poser aucune question, se laisser embarquer. Et ça fonctionne magistralement bien à partir de samedi, donc aux Enfants du Paradis. Voici tout de suite Tanguy Pastureau.
Aïe, 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 la polémique, les amis. Macron, notre petit tout, qu'on a vu grandir sur 5 ans. À un moment, pour paraître plus mature, il a collé à côté de lui Gabriel Attal. Il s'était assagi il y a encore 3 semaines. Il disait, j'ai appris à aimer les Français. Il lui a fallu 4 ans et demi pour nous aimer. On n'est pas super attachants, hein. Et alors qu'on pensait qu'enfin, il y avait de l'amour. Moi, je comptais voter en string ficelle en avril, comme pour une nuit de noces à Vegas.
Oh oui.
La paf, son côté sombre a repris le dessus. Macron, c'est Dexter. Il est tranquillou près de son chalet à tailler des bûches. Vous dites, c'est bon, il a pris son Valium. Puis le facteur arrive
arrivé, tac, il lui plante la hache dans le cœur en disant j'ai l'autocollant stop pub sur la boîte à lettres. Pourtant hier tu m'as mis la brochure Leclerc moins de 30% sur la galette. Au départ, l'idée était bonne. Macron a été confronté au lecteur du Parisien, le journal qu'on lit dans les bouchons à Paris, qui pourrait donc faire 700 pages parce qu'Hidalgo fait avec nous un immense 1, 2, 3 soleil qui reste bloqué sur soleil. Les lecteurs sont 7, une institutrice, ces gens qui reçoivent de Blanquer 18 protocoles sanitaires par semaine, hein, les gosses passent leur vie avec des tests dans le nez, on dirait une colonie de morses, une infirmière, un gestionnaire immobilier, un conseiller patrimoine, Solène, 23 ans, une étudiante, un Nicolas Hulot a été repéré tournant au-dessus d'elle en ULM en criant « Fais-moi des bisous », la garde républicaine l'a abattu, Marie-Ève, directrice d'appui senior, elle doit pas aller loin, hein, et Tom, agriculteur dans le 61 à Réveillon, dommage, à 6 jours près, il tenait une vanne, mais le Parisien, c'est pas la page blague de TéléZ. Bref, un casting censé être représentatif de la société française, alors qu'il n'y a pas un seul dealer de shit, ni la moindre amatrice de Toulon qui a créé son profil d'escorte sur OnlyFans.com. Bon. Hein, donc tout se passe bien, Macron à un moment dit « j'ai envie », un employé répond « c'est la première à gauche », en fait donc il évoquait sa candidature, et là, alors qu'on aborde le sujet du pass vaccinal, ce truc dont on parle à la chambre tous les soirs et qu'on n'arrive pas à faire, comme l'amour quand on est vieux, Macron dit « les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder ». Alors évidemment, les chaînes info qui lisent le journal du matin dès la veille au soir, c'est privilégié. Je suis sûr que Cadmérade leur refile aussi ses codes canal. Hein. Sortent le truc hier et ça part en live, ça s'offuse. Quoi ? Le président parle comme un charretier, c'est indigne. On dirait Geneviève de Fontenay quand elle entre en riab. Bon, tout le monde réagit. Stéphane Ravier du RN dit « Macron est un petit tyran minable qui jouit d'écraser les autres, faut le dégager ». Alors on sent le monsieur qui est dans la mesure. Hein. Vous lui filez une serpe, il coupe des têtes. Christiane Taubira, la sauveuse de la gauche, c'est-à-dire qu'elle va faire 4%, a écrit « On ne parle pas comme cela des Français ». Alors elle n'a cité ni Senghor ni Gandhi, donc ça doit être un fake. Marine Le Pen a dit « Macron est indigne de sa fonction. En avril, je serai la présidente de tous les Français ». Elle, ça fait 12 ans qu'elle se voit à l'Élysée et que ça se fait pas. Elle a la même vie que moi par rapport au concept de l'appartement de type F5. Donc tout le monde dit que Macron a dérapé, sauf que le loulou, il sait bien ce qu'il fait, il est malin le goupil. Dans sa tête, il calcule. Il se dit 10% de non-vaccinés qui me détestent déjà, même si je sors une sextape avec Didier Raoult qui fait gicler sur ma face de l'hydroxychloroquine, ils voteront pas pour moi, autant les achever. Hein, d'autant qu'il sait que dans les 90% de vaccinés, il y en a un tas qui détestent les non-vaccinés. Ce sont eux qui saturent les réas. Hein, donc il choisit l'équipe la plus prometteuse. Si demain le PSG joue à 11 contre l'en avant Guingamp qui sont 3 parce que les autres ont le Covid, vous criez allez Paris. Hein. Et le souci, c'est que là, on voit deux Macron comme Brigitte quand elle a abusé de la poire. Le président, un type paisible censé parler à la nation, et le candidat, un punk à vision du 8e qui flatte son électorat à lui. On sait plus qui parle. Les deux ont la même enveloppe corporelle, ce corps affûté, ce visage fin, la coiffure du petit Nicolas. Mais là-haut, dans la caboche, il a deux entités, ce qui est toujours 20 de moins que Ségolène Royal. Bon. Ou alors, à chaque intervention, il devrait se coller un post-it sur le front avec écrit soit président, soit candidat, comme dans les soirées entre potes quand on n'a rien à se dire et qu'il faut bien jouer à un jeu, sinon à 22h, la soirée, elle est finie. Bon, à part ça, il faut reconnaître que c'est pratique. À chaque fois qu'il pète un câble et insulte des gens, on dira non, ça va, c'est le candidat qui parle. Ah bon, mais il m'a quand même traité de vieux sac à étron de chien. Ouais, mais c'est le candidat, le président, lui, il vous adore. Ah, ok, bon, super. Hein. Alors, en fait, le problème dans cette interview, c'est plutôt quand il dit, je trouve, un irresponsable n'est plus un citoyen. Parce que si c'est lui qui décide qui entre et sort de la République, il fallait ouvrir une boîte hein, qui s'appelle La Cinquième. Et le samedi soir, laisser sur le trottoir tous ceux qui lui reviennent pas. Enfin, même le dernier des antivax qui s'est tatoué le visage de Francis Lalanne dans le dos. Ce qui est très douloureux parce qu'il y a plein de cheveux à faire. C'est pour ça que moi, sur la fesse, j'ai fait Jeff Bezos. Hein. Même celui-là est un citoyen. Parce que si tous les irresponsables perdent leur appartenance à la République, il va falloir brûler les papiers d'identité de tous les cons qui roulent à 160. Mais comme ils n'ont pas été foutus de rendre le vaccin obligatoire pour éviter les procès, si jamais le Pfizer avait fait clamser 27 personnes, ils ont laissé soi-disant le choix, mais qui n'est pas un choix. Vous imaginez que sans passe sanitaire, on peut même pas venir me voir en spectacle. À quoi sert de vivre ? Hein, mais les irresponsables, c'est le manque de courage politique qui les a créés. C'est vous, monsieur Macron. Alors ok, vous voulez les emmerder. On a tous fait ça avec nos proches. Moi, j'ai fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 27 ans, juste pour saouler mes parents. Hein. Mais ce n'est pas au président de dire qui est citoyen ou pas. Enfin, heureusement que là, c'est le candidat qui parlait.
Merci, bravo Tanguy.
Et Tanguy, on se retrouve le 28 janvier à Lyon, c'est à la Bourse du Travail.
Oui, avec le pass vaccinal.
Eh, il n'y a pas de choix.
Entrer en spectacle. Oui, d'ailleurs, ça fait partie maintenant de ces obligations. Vous, comment vous avez vécu côté spectacle, Philippe Lelièvre, cette situation-là ? Vous vous dites, finalement, c'est bien, hein, on peut passer, en effet, une heure et demie dans une salle avec un masque et avoir montré son pass.
Bah oui, enfin oui, oui. Moi, je suis sur scène, donc la seule chose que je vois, ce sont des gens masqués.
Au début, c'était un peu bizarre. Et puis on s'habitue, c'est horrible, on s'habitue à tout. Et maintenant, je suis habitué à ces gens masqués. Alors c'est vrai qu'au premier rang, je vois qu'ils surventilent un peu parce que quand on rit avec un masque, au bout d'un moment, on s'étouffe.
On postille aussi un tout petit peu. Oui.
C'est vrai que les gens acceptent ça et c'est aussi, je les remercie de ça. Mais bon, quand je vais au spectacle, je mets aussi un masque.
Bien sûr.
Si j'ai envie, parce que j'ai envie d'y aller.
Ça ne vous a pas empêché de continuer d'aller au spectacle.
Non, évidemment. Ça m'a tellement manqué, si vous voulez. On m'aurait dit même, tu mets un masque, un chapeau pointu et des palmes.
Pareil. Lors de votre spectacle, on parlait tout à l'heure avec Leïla de la débauche physique. Vous vous entraînez, vous faites attention. D'abord, vous vaccinez dans un premier temps, parce que
je me survaccine. Voilà.
Et vous faites du sport. Vous avez une hygiène de vie particulière pour tenir comme ça.
Je ne sais pas si elle est irréprochable, mais oui, j'ai une hygiène de vie parce qu'on peut pas faire ce spectacle. D'ailleurs, quand je l'ai repris, le premier filage. Ce n'est pas un spectacle qu'on peut faire en italienne, c'est-à-dire qu'on peut pas être là dans les places en disant
italienne, juste, ça veut dire pas d'intention.
Pas d'intention. Il faut jouer ce spectacle à fond.
Il y a une autre expression, c'est allemande, c'est-à-dire
l'allemande, c'est dans les places. L'allemande, c'est dans les places.
C'est ça.
Cours, c'est à gauche, et le proscenium, là-bas. Enfin bref, je sais plus de quoi je parlais.
Cours, c'est à gauche, ça dépend si on est sur scène ou dans la salle.
Ah, c'est Jésus-Christ dans la salle.
C'est ça.
On parlait de quoi
de on parlait de la forme physique. Alors, tante, et de l'entraînement.
Elle vient d'acheter un paillasson. Ah oui, de l'entraînement. L'entraînement. Ça a été très important. J'ai d'abord fait un régime intermittent et non pas d'intermittent. Très très drôle.
C'est quoi un régime intermittent?
Ne la faites pas à Lyon. C'est-à-dire que je ne mange pas pendant 18 heures.
Le jeûne intermittent.
Et non pas un jeûne intermittent. C'est un jeûne intermittent. Donc j'ai commencé par ça, j'ai perdu 4,5 kg et puis après j'ai commencé à travailler.
Attendez, j'aime bien la tête, il y a plein de gens qui notent ça. Donc alors, ne pas manger pendant 18 heures.
Oui.
C'est ça.
C'est-à-dire
vous mangez
Vous mangez à midi et vous prenez le petit-déj.
Non, là, c'est l'inverse. Je ne mange pas le petit-déj. C'est-à-dire que je mange à 19h et je remange le lendemain vers 15h.
D'accord. OK. Ça vous a fait perdre combien de kilos?
Ça m'a fait perdre 5 kilos. Et ensuite le travail m'a fait perdre 4 kilos, donc j'ai perdu 9 kilos depuis que j'ai commencé le spectacle, puisque grossièrement j'avais amené une balance, enfin c'est un peu moins vrai maintenant, mais je perdais 2 kilos d'eau par spectacle.
Oui, c'est ça que vous reprenez disons après.
Devant tout de suite voilà,
quand on pense à tous ces connards qui font comme j'aime alors qu'ils devraient monter sur scène.
Voilà. Exactement. Mais c'est vrai que c'est une hygiène de vie, je fais du vélo, je fais du cardio parce que c'est un spectacle vraiment cardio.
Ouais. Ah oui, non mais on est fatigué pour vous, non. On admire la débauche physique, on n'est pas fatigué, je vous rassure, quand on sort de scène, si ce n'est peut-être ça fait travailler les abdos. Ça aussi, c'est une bonne
tant
pub.
Mieux, tant mieux, tant
venez
mieux.
Voir plus que Givré, vous repartirez avec des tablettes de chocolat dans votre ventre et les abdos. Autre événement culturel, oui. Leïla.
Oh, je veux bien qu'on m'applaudisse pour ça me met du baume au cœur. On va aux États-Unis, on va parler d'une chanson d'un rappeur. Ce rappeur, c'est logique, on écoute le titre.
Alors ça, c'est l'original.
Non, c'est pas vraiment le son que je vous ai demandé, mais c'est pas grave, on va le refaire.
C'est du gros rap. Hein.
On est aux États-Unis.
Ouais, c'est du bon rap. C'est ça.
On est aux États-Unis.
C'est Nirvana, surtout.
Nirvana. Ouais.
On est aux États-Unis, on va parler d'une chanson d'un rappeur, il s'appelle Logic. On écoute.
Si on peut.
Un.
Vous n'avez pas de deuxième son.
Logic.
Ah, c'est marrant parce que logique, ça ressemble vachement à nous.
C'est dommage.
À notre
alors, du coup, ben, je vais être obligée de faire une question, mais dont vous avez déjà la réponse, puisqu'il s'agit
Nirvana
de Kurt Cobain.
Et non, c'était un piège.
Voilà, c'est Kurt Cobain. Tout ça pour vous parler du prochain Batman. Alors, je vais revenir à la première question. Débrouille-toi avec ça. Dans le prochain Batman, qui a inspiré le personnage du Chevalier Noir? Eh bien, c'est Kurt Cobain. Ah bon, voilà, on va retrouver d'ailleurs la chanson Something in the Way dans le trailer. C'est pas un hasard, dit le réalisateur Matt Reeves.
Quand tu dis inspiré, c'est-à-dire quoi? Physiquement?
Oui, c'est-à-dire
un peu comme Keith Richards dans le Pirate des Caraïbes.
La dimension un peu noire, en tout cas, il a pensé à lui dans la création du personnage. Est-ce qu'il y a un héros au cinéma que vous suivez à chaque fois, Philippe Lelièvre? On parle beaucoup de théâtre depuis le début. Est-ce que le cinéma, c'est un lieu où vous allez fréquemment?
Oui, j'ai honte. J'y vais un peu moins qu'avant, c'est vrai. Mais un héros que je suis, non.
Il n'y a pas un héros qui vous fait vous déplacer.
Il n'y a pas des sagas, que ce soit, je sais pas, Harry Potter, Batman, James Bond. Vous avez vu le dernier James Bond ou pas?
Non.
Ah,
D'accord. Non, non, voilà. Non. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Ouais, ça, oui, clairement. Mais d'ailleurs, ça, c'est la fin de l'impro. Hein.
Non, non, mais je pourrais, non, mais je pourrais dire oui, parce que je pourrais être formidable. Ouais. J'ai adoré le dernier. Je peux vous dire la fin, parce que je connais la fin.
Non! Surtout pas.
Non, c'est pas, en tout cas, c'est pas ce qui vous fait vous déplacer. Quel genre de film vous aimez? Quel genre de cinéma vous aimez?
J'aime, c'est assez hétéroclite. J'aime, je peux aller voir un film d'auteur, je peux aller voir tout à coup un film complètement idiot. J'aime le cinéma. C'est comme ce pluralisme-là, même au théâtre. Aller voir Conversation chez les Stein sur Monsieur de Goethe absent et aller voir peut-être pas Mon cul sur la commode mais J'adore les kiwis par exemple, ouais. c'est possible à partir du moment où j'ai envie de voir les acteurs qui jouent dans cette pièce.
Fanny, tu es allé voir J'adore les kiwis ou pas?
Non mais c'est
pour moi vous faites un camoulox là.
Non mais c'est important ce pluralisme, je trouve, ouais. Parce que sinon on devient un facho du moi je ne vais voir que ça et on ne s'intéresse à rien d'autre. Donc je vais voir des gens, découvrir des gens, des seuls en scène, des classiques remasterisés.
Et puis le théâtre, ça se lit aussi. Le théâtre.
En ce moment, j'adore. Enfin, je lis beaucoup de pièces. On lit beaucoup de daubes. Hein, mais découvrir une pièce de théâtre, c'est extraordinaire. C'est vraiment. C'est comme un roman. Enfin, tout à coup, une pièce de théâtre en plus. Depuis que j'en lis, c'est 4-5 pages. Et vous savez que vous allez adorer cette pièce, que vous allez aller jusqu'au bout.
Idem si c'est pas bon, les 4-5 premières pages.
Si c'est pas bon, les 4-5 premières pages, ça tombe des mains. Et alors avant, j'allais jusqu'au bout, maintenant j'arrête.
Et vous écrivez des pièces?
J'en ai écrit. Non, en ce moment, là, on a écrit un film avec Soren Prévost, qu'on va autoproduire. Oh là là. On va se faire ça en 5 semaines en Corse.
C'est votre pire pote, Soren, on est d'accord?
Oui, c'est un.
Vous êtes capable de toutes les folies avec lui.
Oui. Et d'ailleurs, ça saoule les enfants parce qu'on peut se parler au téléphone, par exemple, pendant 10 minutes sans rien se dire, en hurlant simplement, ou en répétant le même mot. Et ça fait rire tout le monde.
Non, mais je confirme, moi, j'ai assisté à des échanges entre vous deux, mais c'est fou. Vraiment, au sens.
C'est-à-dire qu'on a besoin de personne, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de pas besoin de public. On s'auto satisfait tous les deux.
Titre.
Je t'embrasse, Soren.
Est-ce que donc on fait rien sur le rap? Très bien.
Là, j'avoue que
on va reparler de cette pièce. En l'occurrence, Plus que givré de Philippe Lelièvre jusqu'au mois de mars et qui reprend là ce samedi 8 janvier. Il y a une pièce musicale dont on avait parlé d'ailleurs ici qui s'appelle 5 de cœur.
Oh la belle vie.
dont vous avez signé la mise en scène avec un travail incroyable qui relève presque de la chorégraphie, du mime.
Ça a été beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir.
C'est formidable.
Alors qu'on est parti avec eux, je leur ai proposé cette idée de placard qui devenait tour à tour une voiture, un bar, un satellite et que sais-je encore. On a affaire à 5 Stradivarius, en fait, puisque ce sont des chanteurs a cappella. Et tout à coup, on est parti sur ce spectacle complètement improbable que je leur ai proposé et qu'ils ont accepté, ce qui n'est pas simple pour des chanteurs, parce que je les mets dans des situations un peu désagréables parfois, et qu'un chanteur, il aime bien être bien campé sur ses pieds et être face publique et balancer le dossier. Là, je les mets à 4 pattes, je les mets à plat ventre, je les mets de dos, et ils ont relevé le défi. Et c'est un spectacle qui s'appelle Hola Belle Vie, et je pense qu'en ce moment, ce spectacle porte bien son nom, parce que venir les voir, c'est une bulle
de... Ça chante bien, ouais. C'est drôle, c'est intelligent, et en effet, ils ont ce talent-là. Vous parlez beaucoup de l'absurde, de l'improvisation, de l'imaginaire, et pour en revenir à ce que disait Leïla tout à l'heure, le public a son importance, parce que pour que cet imaginaire, cet absurde et cette impro accrochent, il faut revenir un peu, venir dans le spectacle avec son âme d'enfant dans la salle. Il faut accepter cette convention d'imaginaire.
De toute façon, j'ai le sentiment qu'il faut une âme d'enfant aussi pour créer, pour être libéré. C'est-à-dire pas tout à coup intellectualisé. Moi, je prends du plaisir. Ce que j'ai envie de voir, j'ai l'impression que les gens ont envie de le voir aussi. Donc, je suis quelqu'un, quand je ferme les yeux, je vois l'espace. Et donc, je crée de cette manière. C'est-à-dire que c'est des choses auxquelles je pense, que je mûris, et tout à coup, je les libère. Mais c'est pas du tout intellectuel. Ou en tout cas, ça devient intellectuel après. Mais mes premières impressions viennent du plexus. Ça vient de mon ventre, quoi. Et j'ai envie d'exprimer ça. Et j'ai, a priori, ça marche,
qui
en général.
Qui est le premier public? C'est vous. Il faut que vous vous fassiez rire.
Je suis mon premier public, oui. je m'auto-censure, je me trouve vraiment nul. Je suis très exigeant avec moi-même. C'est d'ailleurs horrible. On me le dit autour de moi, tu es trop exigeant avec toi-même.
En plus de cette pièce, donc, 5 de cœur, enfin, jouée par 5 de cœur, qui s'appelle Oh la belle vie. Il y a évidemment la stagiaire qui se poursuit.
Oui,
la
saison
7e.
Je vous avoue que je pense que c'est la saison
7.
La saison 7 va sortir là et on tourne la saison 8 à partir du mois de de juin, enfin moi en tout cas à partir du mois de juin, après le film avec
Stavro. Avec Michel Bernier qui est une bonne camarade, clairement.
Bah, c'est au-delà, c'est un ciment extraordinaire. C'est-à-dire, tout le monde dit « Ah, oh, cette série, elle est géniale !» Parce qu'on s'aime tous, et si on en revient au spectacle vivant, on est tous Nicolas Marié, Antoine Hamel, j'allais dire Brigitte Bernier, Michel Bernier, moi-même, on vient tous du théâtre. Et donc c'est une famille très chouette, où on n'est pas en train de se marcher sur les pieds, on a envie de mettre en avant cette série, et je crois que c'est une série qui n'a pas à rougir.
Et c'est une série qui marche,
et
très
qui
bien.
Marche,
ouais,
voilà. Elle marche pas, ouais. Elle cartonne.
Ouais, cartonne.
Donc c'est un plaisir, et Michel est le ciment de tout ça, parce que c'est une camarade extraordinaire. Extraordinaire.
Et Sorène Prévost, comme Bruno Guillon, non mais je repense à des échanges dont tout le monde a son mot à dire entre Sorène Prévost et Philippe Lelièvre, qui sont dingues. Et tout à l'heure tu parlais du Camoulox, Fanny Ruet. Bah il y a des moments où dans ce jeu-là on se demande si on n'est pas dans une espèce de Camoulox improvisé. Et vous me confirmez, tout est improvisé.
Bah, tout est improvisé.
Quand vous partez en sucette comme ça avec
Comment Sorène, voulez-vous qu'on prépare une improvisation? Ça serait totalement absurde.
Et est-ce qu'on pourrait vous voir bientôt dans une pièce érotique. Dramatique?
Oui, bientôt.
Merci.
Une pièce dont j'ai les droits, ouais. Et bon, bah, on va en parler aujourd'hui, mais bon, c'est assez, c'est
ou
officieux.
Pas, hein,
c'est officiel.
Non,
mais si vous avez les droits, ouais. Tout va bien.
J'ai les droits de cette pièce. C'est une pièce que je vais mettre en scène. C'est une pièce à deux personnages que je vais jouer avec Alison Paradis. Ça sera au Petit Montparnasse en janvier 2023. Voilà, où c'est plutôt quelqu'un de plus calme, puisque je serai dans une chaise roulante.
Ah oui.
Donc c'est un véritable drame ou
c'est pas un drame, c'est disons que ça pourrait être une comédie dramatique, on dit comme ah ouais, ça, mais c'est plutôt, oui, c'est pas spécialement à cette ordre de rire. Mais c'est une magnifique histoire.
Qui vous a amené vers l'humour vous avez grandi en étant biberonné au Monty Python, à Louis,
oui,
de Funès.
Oui,
à...
oui, exactement. C'est Michel Serrault, c'est-à-dire quand j'ai vu La Cage aux Folles, que j'ai vu 6 fois, je crois. Ma grand-mère n'en pouvait plus. Je disais, c'est exactement ce que je veux faire. Ce que me fait le monsieur là, c'est ce que je veux faire. Et j'ai eu la chance de rencontrer des années après Michel Serrault, qui est devenu, enfin, c'était pas un ami, mais c'est quelqu'un, il m'appelait l'acteur. Et il m'a raconté des choses entre lui et Poiret, où j'étais complètement, mais sous le charme. On a fait un retour, parce que j'étais dans Mortelle Randonnée, avec Claude Miller, nous étions en Belgique, il y a eu des problèmes de tournage, on a repris le train ensemble, tous les deux dans un compartiment, on était 6, il avait enlevé ses pompes, il avait ses pieds presque à côté de moi, et il me racontait la rencontre avec Poiret, il me racontait les répétitions de La Cage aux Folles, mais c'était, j'aurais donné ma vie pour ça. J'ai presque envie de pleurer.
On le sent, c'est beau. Des excuses, Daniel Morin, avant de se quitter.
Absolument, désolé pour notre invité, Philippe Lelièvre, roi de l'improvisation et de l'absurde, qui a découvert ce matin un maître avec Nagui et ses questions venues de l'espace. Alors là, oui, mon petit bonhomme, ici on joue la Ligue des Champions, on n'est pas à Brest. Désolé pour tous nos auditeurs tortufiles qui ont envoyé un fax pour exprimer leur regret que notre rubrique Emboîtement de tortue ne dure pas plus longtemps.
C'est clair.
Alors, je vous comprends, on a pris une décision, hein. On a mis des tutos avec Morgane Cadignan en string coquille sur les réseaux sociaux de l'émission. Désolé enfin pour tous les amoureux de bonne musique qui ce matin ont cru qu'après Thierry Pastor, début de soirée, Serge Lama, Francky Vincent, ils attendaient avec raison Jeanne Mas ou Jean-Luc Lahaye. Eh ben non, Nagui, en grand stratège de la programmation, garde le meilleur pour le prochain Taratata. Et demain, attention, pour accueillir David Fuenquinos, attention, soyez à l'écoute.
Oui.
Il est chaud, il est capable de dégainer du gros le Nagui avec du Patrick Sébastien, du Désirless, pourquoi pas du Demis Roussos.
Merci Philippe Lelièvre et surtout bravo pour Plus que Givré. Ça reprend ce samedi et pendant 3 mois aux Enfants du Paradis sur les grands boulevards à Paris. Merci Philippe.
On peut préciser que c'est à côté des Folies Bergères.
Des Folies,
très
ouais.
Bien. Demain en effet, David Fuenquinos sera présent pour son nouveau roman numéro 2. Passez une bonne journée. Voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand.